les auditeurs de Radio MDM, nous voici de nouveau dans l'émission « Leur histoire est aussi notre histoire ». Dans la précédente émission, j'ai parlé de l'église de Saint-Pierre-du-Mont, qui est une petite étape sur le chemin de pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Et j'ai également évoqué ce dernier pèlerinage. Je vais vous parler d'autres pèlerinages maintenant, car sachez qu'au cours du Moyen-Âge, il y avait des pèlerinages beaucoup plus courts, plus locaux, vers des sanctuaires qui abritaient des reliques. Ainsi, en France, on allait prier sur le sanctuaire du Mont-Saint-Michel en Normandie. En Provence, on allait au Sainte-Marie de la Mer, ou bien à la Sainte-Baume à Marseille. En Poitou, à Sainte-Foy-de-Conques. Plus près de nous, même à Saint-Émilion en Gironde, qui conservait les ossements de cet ermite qui est à l'origine de la fondation de cette petite ville. Mais les Landes ont également eu un pèlerinage à l'abbatiale de Saint-Sevé, qui conservait également les reliques de Saint-Sevé, en tout cas de ce qui était supposé être Saint-Sevé. Et enfin, il y a un pèlerinage absolument célèbre jusqu'au XVIe siècle, qu'on a peut-être un peu oublié aujourd'hui, c'est le pèlerinage de Sainte-Quitterie du Mas d'Air. Alors, qui était Sainte-Quitterie? Eh bien, Sainte-Quitterie, c'était une princesse wisigothe qui aurait vécu au VIe siècle en Galice, c'est-à-dire en Espagne du Nord. Elle avait décidé de vouer sa vie au Christ, alors que son père voulut la marier à un prince, wisigoth également. Elle avait totalement refusé, elle s'est donc enfuie. On ne sait pas exactement par quel itinéraire elle est arrivée à Aire-sur-l'Adour, où elle a accompli un certain nombre de miracles. Mais les soldats du prince, qui étaient décidément très mécontents de sa fuite, les soldats du prince et conduits l'ont retrouvée et la décapite sur la colline du Mas d'Air. La légende, qu'on raconte toujours d'ailleurs, veut qu'à l'emplacement de la décapitation jaillit une source qui fut l'objet d'une longue vénération, car elle était censée guérir tous les maux liés à la tête. En effet, dans la mesure où on l'a décapitée, on la représente souvent portant sa tête dans ses mains. Et tous les saints qui sont dans la même situation, qui ont été décapités, sont ce que l'on appelle aujourd'hui des saints céphalophores, les porteurs de tête. On a donc donné le nom de chemin de Sainte-Quitterie à la route Aire-Lescar, qui est en réalité une ancienne route romaine qui passe par la Trie et Miramont. Et aujourd'hui, cette vieille route a quasiment disparu. C'est seulement l'archéologie aérienne qui peut en retrouver le tracé à travers les champs, car une route moderne l'a remplacée plus à l'est. Le pèlerinage vers Sainte-Quitterie du Mas a rencontré vraiment une très grande ferveur au cours du Moyen-Âge. Ce culte s'est d'ailleurs propagé largement en dehors des Landes, en Auvergne par exemple, en Espagne, et grâce à la voie de pèlerinage venant du Puy. L'abbaye du Mas, en effet, a été fondée en 1042. Elle a connu d'ailleurs très vite un réel succès, et c'est sans doute à la suite de cette fondation que l'église romane du Mas aurait été édifiée à l'emplacement d'un ancien temple romain. Cette abbaye donc a beaucoup contribué au développement du pèlerinage vers Sainte-Quitterie et à son culte. On connaît d'ailleurs de nombreux témoignages du succès rencontré par Sainte-Quitterie. Déjà au milieu du XIIe siècle, le duc d'Aquitaine Guillaume et sa fille Aliénor vénéraient Sainte-Quitterie dans la chapelle du château de Belin, et l'église paroissiale de ce dernier lieu a choisi Sainte-Quitterie comme patronne. En 1242, par exemple, la reine d'Angleterre, Éléonore de Provence, demande qu'on lui porte à Bordeaux des reliques de Sainte-Quitterie qui furent vénérées solennellement dans la cathédrale, et son époux Henri III s'était même rendu en personne au sanctuaire. Ce dernier a fait l'objet d'ailleurs de très nombreux dons de la part de grands seigneurs comme le comte d'Armagnac, le comte de Fezensac et très probablement aussi des vicomtes de Marsan, car de tous ces témoignages demeurent les blasons peints dans la crypte, parmi lesquels on reconnaît celui des vicomtes de Marsan et de Béarn. Alors, comment faisaient les pèlerins lorsqu'ils venaient en pèlerinage à Sainte-Quitterie? Eh bien, ils faisaient d'abord une halte, comme aujourd'hui d'ailleurs, ils faisaient d'abord une halte à la fontaine qui était située en contrebas de l'église. Puis ensuite, ils allaient prier sur le très beau tombeau de marbre blanc de la sainte qui se trouve à l'intérieur de l'église. Bon, il faut dire quand même que ce tombeau peut être du VIe siècle, mais les sculptures, tout ce qui a été représenté, qui est vraiment magnifique, est plus tardif. Ce tombeau était recouvert d'un mantel et on avait pris l'habitude d'y prêter serment pour garantir l'honnêteté des transactions et des paiements. C'est dire donc l'importance que pouvait revêtir ce tombeau. Par exemple, la corporation des bouchers de Tartas devait jurer sur l'autel de Sainte-Quitterie qu'il ferait, je cite, « viande bonne et marchande, poids bon et loyal ». Et c'est sur cet autel, par exemple, que fut jurée la réconciliation entre les deux familles ennemies du Tursan, les Miramont et les Castelnau-Tursan en 1309. C'est là aussi que fut ratifiée en 1365 la paix entre Gaston Phoebus, vicomte de Béarn et comte de Foix, et le comte d'Armagnac qui étaient tous les deux en guerre. On connaît de nombreux sanctuaires landais qui ont consacré une chapelle à la Sainte. Par exemple, à Duhors, l'abbaye de Saint-Jean de la Castelle, qui lui rendait un culte. On trouvait également un culte et une petite chapelle à Subéargues, à Saron, à Renin, en fait dans tout le Tursan, puisque la Sainte était censée avoir traversé le Tursan lorsqu'elle s'était enfuie de Galice. Mais on va trouver de toute façon ce culte également en Chalosse, à Souprosses, à La Motte, beaucoup plus haut à La Brite, au Seine, à Toulouse, jusqu'à Gast sur la côte, qui avait choisi Sainte-Quittery comme patronne de leur église, et bien au-delà des Landes d'ailleurs. Bon, l'église de Luc Bardès, l'église de Mayer, l'église d'Argelouse, l'église de Cona sont vouées à Sainte-Quittery. Et le succès de ce culte fut tel que Sainte-Quittery fut adoptée comme prénom de baptême dans les grandes familles seigneuriales landaises ou gasconnes. Et encore aujourd'hui, c'est un prénom qui est toujours adopté. Alors, il y a évidemment un côté, on va dire, commercial, il ne faut pas se leurrer. Le pèlerinage attirait beaucoup de monde, mais les marchands en profitaient aussi, car les marchands étaient très nombreux à vendre des objets qui rappelaient le pèlerinage. Et ces objets étaient donc fabriqués par des artisans qui en vivaient. Il y avait par conséquent tout un échange et tout un commerce, et on dirait aujourd'hui notamment, on dirait des sous-traitants, mais en fait, on va dire simplement pour le Moyen-Âge, des artisans et des marchands. Les artisans fabriquaient des enseignes, des petites enseignes gravées à l'effigie du sanctuaire ou du saint qu'on allait prier. Alors, elles pouvaient être en différents métaux, qui pouvaient aller jusqu'à l'or pour les personnes les plus riches, tout simplement dans des petits métaux humbles lorsqu'on n'avait pas les moyens d'acheter mieux. Ils fabriquaient des croix gravées, il y avait même des ampoules en terre cuite dans lesquelles on recueillait l'eau du sanctuaire. Alors, ces productions étaient souvent contrôlées par les religieux du sanctuaire qui était visité, mais il faut dire que les commerçants leur faisaient aussi concurrence. Par exemple, le pèlerinage jacquaire, lui, produisait des coquilles, qui sont bien connues, et que les pèlerins portaient cousues sur leurs vêtements et notamment sur leurs chapeaux. D'une façon générale, on a estimé à plusieurs dizaines de milliers la production d'enseignes qui étaient faites chaque année près des grands sanctuaires. Alors, malheureusement, nous n'avons pas l'équivalent de toutes les découvertes qui ont été faites pour de grands sanctuaires de la France et qui sont connus effectivement grâce aux fouilles archéologiques qui sont conservées dans des musées. En revanche, on a découvert il y a une cinquantaine d'années une petite enseigne qui était dédiée à Sainte-Quittery du Mas d'Air, ce qui prouve qu'on en fabriquait également ici. Quelles pouvaient être les motivations des hommes et des femmes qui partaient sur la route à cette époque en laissant parfois derrière eux des situations bien confortables? Alors, les raisons sont variées, bien entendu. Alors, tout le monde pensera en premier aux sentiments religieux et aux vrais croyants qui voulaient accomplir ainsi leur dévotion. D'autres partaient en pèlerinage pour expier une faute dont la culpabilité pesait sur leur conscience. Certains le faisaient aussi afin d'exaucer une prière, un vœu. Ils demandaient par exemple la guérison d'un proche. Mais on pouvait aussi être condamné par l'Église ou par une cour à partir en pèlerinage parce qu'on avait commis un acte grave, un meurtre notamment. L'Église avait mis au point un ensemble de pénitences, qu'on appelait des pénitences canoniques, et qui correspondaient au degré de gravité du crime commis. Le pèlerinage en faisait partie. Nous avons un cas connu, mais qui n'est pas en Marsan, cependant je vais en parler parce que c'est le département des Landes, c'est un cas qui concerne le Tursan. C'est le cas du seigneur de Miremont, Auger, un descendant des vicomtes de Miremont qui s'était illustré aux côtés des vicomtes de Béarn et du roi d'Aragon, notamment au XIIe siècle dans la Reconquista. Donc un des descendants, Auger, en 1270, avec ses compagnons, avait rencontré le seigneur de Castelnau, également entouré de ses propres compagnons. Le seigneur de Castelnau devait de l'argent au seigneur de Miremont qui lui avait vendu un cheval. Or, le seigneur de Castelnau devait être mauvais payeur, parce que visiblement, Auger de Miremont ne parvenait pas à rentrer dans ses fonds. Donc, au cours de cette rencontre qui avait dégénéré, eh bien, Auger de Miremont et ses seigneurs avaient tué le seigneur de Castelnau, Géraud. Donc, Auger fut condamné par la cour ducale de Saint-Sevé à partir en pèlerinage au-delà des mers. Alors on ne sait pas si c'est à Rome ou si c'est à Jérusalem, on sait simplement que c'était un pèlerinage dit ultramontain dans les textes. Ultramontain, ça veut dire Rome, ça veut dire aussi Jérusalem. Mais enfin, partir en pèlerinage aussi lointain, c'était un voyage extrêmement dur, encore beaucoup plus dur qu'à l'époque, car on n'était absolument pas à l'abri, ni des attaques, ni de la maladie. Un certain nombre de pèlerins ne revenaient jamais, et ceux qui revenaient chez eux le faisaient après plusieurs années. Pour terminer cet exposé sur les chemins de pèlerinage, je vais vous lire un extrait d'un petit ouvrage du Moyen-Âge, Le guide du pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle. Cet ouvrage a longtemps été attribué à Aimery Picot, mais en réalité, l'auteur serait un autre moine, moine du Poitou également, comme Aimery Picot, qui s'appellerait Hugues. Cet ouvrage a été écrit vers 1141, c'est-à-dire au moment où Mont-de-Marsan va être fondé, son auteur a accompli le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Alors voici ce qu'il écrit à propos des Landes. « Si par hasard tu traverses les Landes en été, protège-toi soigneusement le visage des mouches énormes qui foisonnent et qu'on appelle guêpes ou thans. Et si tu ne regardes pas attentivement où tu poses les pieds, tu t'enfonceras rapidement jusqu'aux genoux dans le sable marin qui là-bas est envahissant. Après avoir traversé ce pays, on trouve la Gascogne, riche en pain blanc et en excellent vin rouge. Elle est couverte de bois et de prés, de rivières et de sources pures. » Bon, là, c'est pas trop mal, hein, bon. Mais par contre, voici son opinion sur les Gascons en général. Alors, par Gascon, on va entendre l'ensemble des populations qui vivent en Gascogne. Ce n'est pas très flatteur, vous allez voir. Les Gascons sont légers en parole, bavards, moqueurs, libidineux, ivrognes, gourmands, mal vêtus, négligés. Pourtant, ils sont aguerris au combat et remarquables par leur hospitalité envers les pauvres. Assis autour du feu, ils ont l'habitude de manger sans table et de boire tous au même gobelet. Ils mangent beaucoup, boivent sec et sont mal vêtus. Ils n'ont pas honte de coucher tous ensemble sur une mince litière de paille pourrie, les serviteurs avec le maître et la maîtresse. Bon, pas un tableau très flatteur comme vous le voyez. Pour terminer cette première partie de l'émission, eh bien, je vous propose une chanson, le Chant des pèlerins de Compostelle, qui a été créée il y a plus de 25 ans par Jean-Claude Benazé. Et cette version, dans cette version, l'auteur lui-même chante et il est accompagné à la guitare par José Ignacio Toqueiro.
Après jour, la route nous appelle, c'est la voie de Compostelle. Pultreia, Pultreia, Esso Seia, de Rosario Manos. Chemin de terre et chemin de foi, trois millénaires de l'Europe. La voie lactée de Charlemagne, c'est le chemin de tous les jacquets. Ultreia, Ultreia, Esso Seia, Devus Adiumanos. Et tout là-bas, au bout du continent, Messire Jacques nous attend, depuis toujours son sourire fixe, le soleil qui meurt au Finistère. Ultreia, Ultreia, Esso Seia, Deus Adiumanos. Ultreia, Ultreia, Esso Seia, Deus Adiumanos.
Vous êtes dans l'émission « Leur histoire est aussi notre histoire » et c'est le second volet de l'émission que je consacre aux marsans au Moyen-Âge, en particulier là, au pèlerinage. Et j'ai beaucoup parlé notamment du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle et de celui de Sainte-Quitterie dans le premier volet. Nous allons parler des ordres monastiques en vicomté de Marsan au XIe et XIIe siècle, car on ne peut pas comprendre le fonctionnement de la société médiévale si on n'aborde pas la question des ordres monastiques qui ont joué un rôle extrêmement important dans la formation du paysage et dans la vie politique en général. Alors, différents ordres monastiques se sont installés en Marsan au cours du Moyen-Âge, et même beaucoup plus tard, jusqu'au XIXe siècle d'ailleurs. Donc leur fondation s'est étalée sur plusieurs siècles, et elle répond à des phases successives de la réforme de l'Église, comme au contexte politique général, par exemple les croisades. Alors, quel est le plus ancien ordre connu en Occident ? Eh bien, c'est l'ordre bénédictin, dont la règle créée au VIe siècle a été modifiée, mise au point par Benoît d'Agnan au 9e siècle. Cette règle fait que la journée monastique s'ordonne autour de la prière collective, à 6 moments de la journée ou de la nuit. Elle est suivie évidemment par le travail manuel et par l'étude des textes liturgiques, car l'oisiveté est l'ennemi de l'âme. Le respect du silence est une règle essentielle de ces moines, et une de leurs activités importantes était également à l'époque la copie de manuscrits, et en particulier je pense au célèbre manuscrit de l'Apocalypse de Saint-Sevé qui a été recopié dans le scriptorium de l'abbaye au milieu du XIe siècle. Cet ouvrage contient notamment une map-monde, une des plus anciennes représentations connues de la Gascogne où Saint-Sevé occupe une place majeure. Avant le Xe siècle, quelques petits monastères ont existé, mais on ne sait vraiment rien à leur sujet. Ils n'ont laissé aucune trace. En revanche, à partir du Xe siècle, les grands seigneurs gascons sont à l'origine d'une vague de fondations monastiques, dont deux pour les Landes notamment, l'abbaye de Saint-Sevé et Sorde l'abbaye, qui ne sont pas en Marsan. Mais Saint-Sevé est quand même à la limite de la vicomté, et l'abbaye a reçu d'ailleurs quelques biens en Marsan. À la fin du XIe siècle, le pape Grégoire VII a entamé une réforme religieuse, qui est à la fois morale et disciplinaire. Les abbayes s'étaient en effet beaucoup enrichies, mais ça c'est lié évidemment à toutes les donations qu'elles avaient reçues, et les mœurs s'étaient pas mal relâchées. Donc, le retour à un idéal de pauvreté et de simplicité explique l'apparition d'ordres nouveaux au début du XIIe siècle. Alors je citerai notamment les chartreux, que nous n'avons pas en Marsan, les cisterciens, les prémontrés et les antonins. En Marsan, ce sont essentiellement les deux derniers qui sont présents. Mais il faut dire également que cette période du XIIe siècle, c'est également le début des croisades, dont la première démarre en 1099. Elle va favoriser la création des ordres militaires, dont les plus connus sont les Templiers ou les Hospitaliers, mais il en a existé bien d'autres. Alors, j'avais commencé par vous parler de l'ordre des Prémontrés. C'est un ordre qui a été fondé en 1120 par Norbert, un seigneur de la région du Rhin, et il tire son nom du lieu-dit où fut établie la première abbaye, c'est-à-dire à Prémontré, entre Laon et Soissons. À la différence des bénédictins, les Prémontrés suivent une autre règle, la règle dite de Saint-Augustin, c'est-à-dire que tout en vivant en commun dans une abbaye, ils ont pour autre mission notamment la prédication et sont au contact direct des chrétiens. Dès sa fondation, cet ordre a connu un grand succès, il est apparu en Bigorre, à peu près vers 1135, avec l'abbaye de la Case-Dieu, à la fondation de laquelle a participé le vicomte Pierre de Marsan. Ce dernier va donc appeler, alors peut-être vers 1160, on n'est pas tout à fait sûr, mais il va appeler à ce moment-là quelques moines de l'abbaye en Marsan et les installer sur la paroisse de Duor où ils vont édifier l'abbaye de Saint-Jean de la Castelle. Il les dote de très nombreuses terres le long de la Dour, une grande partie de la commune de Caser d'aujourd'hui, celle de Duor, une partie du Vignot. Et ensuite, grâce à divers achats de terres et autres dons, les Prémontrés vont détenir des biens à Bordère et un deuxième groupe sur les bords de la Douze, à Maillères, à Carreau, à Laquis. Et ils possédaient aussi le moulin de la Grange, mais un peu plus tard, avec la petite chapelle du même nom à Mont-de-Marsan, près de l'actuelle place Saint-Louis. Ils ont beaucoup contribué à la mise en valeur des terres des bords de la Dour et on leur doit notamment la bastide de Caser qu'ils ont fondée en 1314 avec Marguerite de Foix-Béarn, vicomtesse de Marsan, Béarn et comtesse de Foix. Un autre ordre installé en Marsan est celui des Antonins de Saint-Antoine de Gollony, dont la commanderie se trouve à Batz en Tursan. Cet ordre hospitalier a été fondé en 1070 par un seigneur du Dauphiné qui avait rapporté de Constantinople des reliques de Saint-Antoine. Ces reliques étaient censées guérir d'un mal lié à un champignon parasite de l'ergot du seigle qui donnait des hallucinations et des convulsions. C'était un mal très grave et qui atteignait de très nombreuses personnes car lors des moissons, si on ne prêtait pas attention à ce parasite, eh bien, on fabriquait la farine et à ce moment-là, on consommait ce champignon hallucinogène, on pouvait même en mourir. Les moines de cet ordre ont décidé de soigner les personnes atteintes de ce mal et il faut dire que le seigle au Moyen-Âge était quand même très répandu partout en France puisqu'on en faisait du pain, de la bouillie et donc nombreux étaient les malades. Dans notre région, le seigle était une des bases de l'alimentation. Les Antonins étaient présents le long des routes de pèlerinage. Ils soignaient en proposant de la viande aux voyageurs et ils fabriquaient des baumes à base de plantes qui les soulageaient. Alors, dans les Landes, on ne sait pas comment ils sont arrivés ni exactement quand. Sans doute ont-ils été appelés par un seigneur, on ignore lequel, et ils se sont installés au sud du Tursan à Batz, où ils ont créé la commanderie de Saint-Antoine de Gollony, qui comportait un hôpital et une chapelle. Cette commanderie a reçu en tout cas des vicomtes de Marsan, des terres dans le nord de la commune de Grenade, où ils possédaient une chapelle du nom de Saint-Pierre de Flaron, lieu dit qui existe toujours. Et ils ont créé là un domaine agricole. Et cet ordre est à l'origine, avec la vicomtesse de Marsan, de la création de la Bastide de Grenade-sur-Adour. L'ordre des Antonins est à l'origine également de plusieurs autres hôpitaux dans les Landes, comme par exemple Saint-Antoine de Roquefort, l'hôpital d'Urgons, l'hôpital de Tartas également, l'hôpital de Gamarde, celui des Scourses. Au début du XIIe siècle, les croisades ont démarré en Orient et les ordres qui sont liés à ces croisades vont se constituer très rapidement à ce moment-là. Et d'une façon secondaire, on peut considérer qu'ils sont en quelque sorte liés au pèlerinage, mais ce n'était pas du tout leur mission première. Les dangers et l'insécurité, d'abord présents le long des routes en général, ont eu pour conséquence le développement de petites structures d'accueil ou d'hôpitaux dont on ne connaît pas en général les fondateurs. Les documents écrits manquent pour cette période du XIIe siècle. Quelques-unes de ces structures ont été créées par des particuliers et non pas par des ordres monastiques comme on le pense souvent. Ces ordres qui apparaissent au début du XIIe siècle dans le contexte des croisades, ce sont les Templiers et les Hospitaliers. Templiers et hospitaliers sont des ordres religieux et militaires. On a souvent surnommé les premiers des moines soldats. Leurs membres doivent respecter la règle de l'ordre, alors que d'autres ordres comme les hospitaliers ont en plus un devoir d'hospitalité que n'avaient pas les Templiers. Les hospitaliers, c'est l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. À leur début, ils ne pratiquaient pas d'activité militaire. À l'origine de l'ordre des hospitaliers, il y a une petite fondation qui s'était installée à Jérusalem, qui avait créé au milieu du XIe siècle, c'est-à-dire 50 ans avant les croisades, un petit hôpital afin de soigner les pèlerins. L'ordre du Temple, lui, a été créé par quelques chevaliers désireux de protéger les pèlerins qui se rendaient à Jérusalem. Ils ont donc édifié des châteaux afin d'assurer la sécurité de la route au Moyen-Orient. Mais très vite, leur mission s'est élargie à la défense des États latins d'Orient. En Europe, ces deux ordres sont organisés en commanderies qui gèrent des petites ou grosses fermes à la tête d'une unité d'exploitation. Et en fait, c'est essentiellement ça leur travail, c'est de fournir les ressources nécessaires à l'accomplissement des missions militaires en Orient et donc l'ensemble des produits sont collectés et ensuite vendus et l'argent va servir à ces ordres installés donc en Palestine. Ces deux ordres ont reçu de très nombreuses donations de la part de seigneurs ou de simples bourgeois et il se trouve qu'un certain nombre de ces terres se trouvaient sur les routes empruntées par les voyageurs ou bien par les pèlerins. Les hôpitaux qui avaient donc été fondés avant la donation à ces ordres sont passés aux mains des ordres religieux qui ont alors pris le relais et assuré l'accueil des voyageurs. Alors quand même, je voudrais préciser une chose importante, c'est qu'en Marsan, nous n'avons aucune trace des Templiers. Mais dans la vicomté de Dax, ils possédaient un petit établissement à Saint-Vincent de Xinte, à La Torte, où ils avaient une chapelle. En revanche, à la limite du Marsan, ils ont tenu des biens, notamment à l'est de Saint-Justin à La Roquet, et ces biens ont ensuite été donnés aux hospitaliers après la suppression de l'ordre du Temple en 1312. Les hospitaliers ont été définitivement transformés en ordre monastique en 1113 par le pape Pascal II et leur nom est devenu Saint Jean de l'hôpital de Jérusalem. Alors c'est au départ un ordre de moines qui soigne, mais un peu plus tard, sur le modèle de l'ordre du Temple, les hospitaliers se sont transformés en ordre militaire. Ce sont donc des moines chevaliers, comme les Templiers, mais en revanche les Templiers ne soignent pas. Les routes de Saint-Jacques n'ont jamais particulièrement attiré ni le temple ni l'hôpital. L'action hospitalière du temple, qui est secondaire mais réelle, n'a jamais été polarisée du tout sur Compostelle. Ces routes de pèlerinage, ou les routes tout simplement, parce qu'il y avait des pèlerins, mais il n'y avait pas que des pèlerins, il y avait des marchands, et il y avait des voyageurs de toutes sortes. Donc ces routes étaient jalonnées de petits hôpitaux qui assuraient donc l'accueil. Et environ une moyenne de 10 à 15 km les séparaient, et les pèlerins voyageaient généralement en petits groupes, si possible avec des marchands pour une plus grande sécurité. L'exemple le plus connu de la fondation des hospitaliers en Marsan, c'est la fondation de Saint-Justin en 1280, par un pariage entre cet ordre et la vicomtesse de Marsan-Constance. L'ordre avait reçu de la famille vicomtale ou des seigneurs de Roquefort des terres sur les paroisses qui forment aujourd'hui la plupart des quartiers de Saint-Justin, comme Gontaut ou Sauboire. Mais on les trouve aussi au nord de Mont-de-Marsan, où il possède la petite commanderie de Cap-Corneau avec sa chapelle Sainte-Anne sur la paroisse de Nonnerre. Cette chapelle Sainte-Anne a d'ailleurs donné son nom à l'hôpital psychiatrique de Mont-de-Marsan qui a été élevé sur son emplacement. Au XIIIe siècle, les hospitaliers possédaient également des terres à Bélisse et à Mayère qui avaient été données par un seigneur. Amagneux d'Albret, seigneur de la Britte, par exemple, leur a fait don de l'église de Lugo et cette donation est d'ailleurs peinte sur les murs de l'édifice dans le premier tiers du XIIIe siècle. Les hospitaliers étaient également les patrons de l'église de Saint-Jean-d'Oute et de celle de Bouriotte, mais toutes ces donations ont été parfois faites assez tardivement. Nous avons un autre ordre, qui est l'ordre de Saint-Jacques de l'Épée Rouge, un ordre espagnol créé en 1170 par le roi de Galice, Ferdinand II, et qui, lui, avait fondé la commanderie de Bessaoute sur la paroisse de Lincouac. Alors cette petite commanderie très connue, qui malheureusement est aujourd'hui en ruine, avait reçu des dons très importants du roi d'Angleterre et du duc d'Aquitaine, ainsi que de nombreux chevaliers gascons dans les paroisses de Lincouac, de Cachin et d'Arru. Et Bessaoute possédait plusieurs hôpitaux sur la Guanère, sur la Douze, le long de la route qui venait de Capsieux, c'est-à-dire une route qui notamment laissait passer les pèlerins. En Marsan, j'ai également évoqué la donation de l'église de Bougues pour fonder un prieuré par le duc d'Aquitaine en 1116 à l'abbaye de la Sauve-Majeure, qui est une abbaye bénédictine. Eh bien, sachez que l'église de Bougues était célèbre par ses reliques, mais j'aurai l'occasion d'en parler à un autre moment. Donc, c'était une étape également pour les voyageurs qui voulaient s'arrêter, qui venaient par exemple de la route de Roquefort, et puis ensuite qui, à un moment, bifurquaient pour se rendre jusqu'à Bougues. Je vous ai parlé donc de l'importance de ces ordres monastiques, notamment en Marsan et dans tout l'Occident en général. Et pour terminer cette émission, je vous propose un extrait d'une œuvre de Guillaume de Machaut, qui est un clerc et compositeur du XIVe siècle. Il a écrit une œuvre énorme, plusieurs centaines de poèmes, de nombreuses œuvres musicales et notamment la Messe de Notre-Dame, œuvre polyphonique à quatre voix. C'est donc l'un des grands compositeurs de la musique polyphonique médiévale. Ce que je vais vous proposer n'est qu'un extrait de l'hymne à Sainte-Marie de la Messe de Notre-Dame, mais vous allez être surpris par la gaieté de cette musique.